Vivre FM podcast.
Mesdames, messieurs les parlementaires élus, mesdames, messieurs les représentants des associations, madame la présidente, chère Dominique Gillot. Avant de clôturer les travaux de cette conférence, vous comprendrez que je revienne sur ce qui s'est passé cette nuit au début de la matinée. J'ai été en effet averti que l'avion qui devait partir de Roissy et qui était parti de Roissy pour se rendre en Égypte, au Caire, avait été perdu. Et qu'il y avait à craindre que cet avion se soit écrasé. Les informations que nous avons pu recueillir, le Premier ministre, les membres du gouvernement et bien sûr les autorités égyptiennes, nous confirment, hélas, que cet avion s'est abîmé et s'est perdu. Il y a 66 passagers en tout, y compris les personnels d'équipage et les personnels de sécurité. Parmi ces personnes, il y a 15 Français. Nous avons donc pris les dispositions à l'égard des familles concernées et la cellule de crise a été immédiatement actionnée. Avec les autorités égyptiennes, nous faisons en sorte que toutes les familles puissent être accompagnées, informées dans cette épreuve. Et nous avons une pensée de solidarité et de compassion. Ce n'est pas la première fois que de telles catastrophes se produisent. Et nous savons ce que cela représente pour les familles et pour les proches. Mais nous avons aussi le devoir de tout savoir, de tout connaître sur les causes de ce qui s'est produit. Et aucune hypothèse n'est écartée. Aucune n'est privilégiée. J'ai donc voulu que tout soit mis à disposition des autorités grecques et des autorités égyptiennes pour qu'en liaison avec elles, nous puissions envoyer bateaux et avions pour connaître là où l'avion s'était échoué et pour retrouver autant qu'il était possible des débris qui nous permettent de connaître et de savoir la vérité. Et lorsque nous aurons la vérité, nous devrons en tirer toutes les conclusions. Que ce soit un accident ou une autre hypothèse que chacun a à l'esprit, qui peut être une hypothèse terroriste. Mais à ce stade-là, nous devons d'abord privilégier notre solidarité à l'égard des familles et la recherche des causes de la catastrophe. Je sais que le gouvernement français est mobilisé, je sais que beaucoup d'organisations, à commencer par bien sûr les compagnies aériennes concernées, mais également les autorités de pays amis, en premier lieu les autorités égyptiennes sont mobilisées et nous aurons la vérité. Aujourd'hui, je suis avec vous pour cette conférence sur le handicap. C'est la deuxième que je tiens durant ce quinquennat, et nous avons même raccourci les délais. Cette conférence doit se tenir tous les 3 ans. La dernière était en 2014, et j'ai voulu que nous puissions, au début de 2016, faire le point, et en même temps ouvrir des perspectives. Nous avons à respecter des engagements, mais nous avons aussi à fixer de nouveaux objectifs. Il n'y a pas de sujet qui mette la République davantage à l'épreuve quant à ses promesses que le handicap. Et c'est pourquoi le handicap doit mobiliser toute la nation, dans la durée et au-delà même des alternances. Cette conférence associe toutes les parties prenantes et nous l'avons voulu ainsi. Est-ce que cette politique du handicap est figée pour toujours? Est-ce qu'elle ne doit pas connaître des étapes en fonction à la fois des découvertes, des réussites, des difficultés, des échecs? Longtemps, la politique du handicap a cherché à protéger, en accueillant les personnes handicapées dans des établissements spécifiques, en leur proposant des lieux de scolarisation, en imaginant des modes de travail, là aussi toujours particuliers. Ces initiatives étaient louables, mais elles ont eu pour conséquence de limiter les occasions d'échange avec le reste de la société et parfois d'enfermer le handicap autour du handicap. Aujourd'hui, la politique vise à émanciper, à développer l'autonomie, à reconnaître les capacités des personnes handicapées, les talents, les chances que nous avons d'être différents. Bref, comme l'ont dit Marisol Touraine et Ségolène Neuville, à bâtir une société inclusive. De même, longtemps, les politiques sociales ont cherché à rendre le handicap invisible aux yeux des autres. Aujourd'hui, l'exigence, c'est de changer le regard sur le handicap, de voir dans nos différences ce qui nous est commun et ce qui nous unit. Le handicap d'une personne ne doit pas la figer dans un type de vie qui serait son seul destin. Au contraire, c'est l'échange, c'est le parcours, c'est également le partage qui vont faire que notre société va être meilleure dès lors que nous sommes ensemble. Notre ambition, c'est de faire en sorte que la personne handicapée ne se heurte à aucune frontière, aucune limite, aucune barrière physique ou morale dans ses projets. Alors ces principes ont été pour l'essentiel posés lors de la loi du 11 février 2005. Et ce que nous avons à faire, c'est de les traduire dans la vie de tous les jours. L'action du gouvernement, sous l'autorité donc du Premier ministre, parce que c'est une vocation interministérielle, doit s'inscrire dans cette perspective et doit se déployer à tous les âges de la vie et dans toutes les politiques publiques. Alors il y a d'abord l'objectif d'accessibilité. C'est une volonté, ça doit être aussi une exigence dans une contrainte que nous connaissons tous. L'accessibilité pour les lieux publics, l'ordonnance du 5 août 2015 l'a définie et a fixé des modalités et une méthode pour que ce soit à la fois volontariste et réaliste. Au 1er mai 2016, sur 1 million d'établissements recevant du public, la moitié sont entrés dans la démarche des agendas. 300 000 d'entre eux ont programmé des travaux dans un délai qui ne pourra pas être supérieur à 3 ans. En comptant déjà les centaines de milliers d'établissements qui sont accessibles, il en reste encore 20% qui devront s'engager dans ce mouvement. Et pour qu'on atteigne l'objectif, nous allons faire un suivi tout à fait exigeant, et c'est la mission qui est confiée à la sénatrice Claire-Lise Campion pour procéder à cet examen, à cette évaluation, et pour que nous puissions en tirer, année après année, toutes les conclusions. L'accessibilité, elle doit être générale. Elle doit concerner tous les lieux de culture, bibliothèques, musées, cinéma, les équipements sportifs, les structures d'activités périscolaires. Mais nous nous apercevons qu'il y a de nouveaux domaines où nous devons penser l'accessibilité. Et c'est le développement des nouvelles technologies. Alors les nouvelles technologies, j'ai eu l'occasion de voir les innovations qu'elles permettent. Ça peut effectivement libérer la personne handicapée, à condition qu'il y ait des ressources financières qui permettent d'avoir l'appoint de ces nouvelles technologies. Il y a des innovations formidables qui permettent de voir, de marcher, de circuler et de comprendre ce qui, jusqu'à présent, n'était pas possible. Mais en même temps, il peut y avoir de nouvelles barrières à cause des nouvelles technologies. Puisque beaucoup de procédés ou de procédures se numérisent, si les personnes en situation de handicap ne peuvent pas accéder à ces ressources, c'est une contrainte de plus qui vient s'ajouter à beaucoup d'autres. Alors la loi numérique, qui est en cours de discussion et qui sera voté dans les prochains jours permettra de franchir des étapes importantes. De nouvelles normes vont être prévues pour les sites web des administrations publiques. Il va y avoir une labellisation de ces sites et nous allons aussi demander aux opérateurs privés de faire l'effort de rendre accessibles toutes leurs opérations. Je pense aux communications téléphoniques pour les personnes sourdes, par exemple. Mais il y a bien d'autres exemples où les sites Internet doivent à chaque fois prévoir l'accessibilité pour tous. Mais c'est vrai que c'est à l'école que tout se joue. La ministre de l'Éducation nationale est là. C'est au cœur de la refondation. Pour que l'école puisse être anticipatrice de ce que doit être la société, c'est-à-dire inclusive. Il y a aujourd'hui 280 000 enfants handicapés qui sont scolarisés. C'est un tiers de plus qu'à la rentrée 2011. Un tiers de plus. Je salue notamment la place des unités d'enseignement en maternelle pour les jeunes enfants autistes, puisqu'il y a eu 60 structures qui ont été créées depuis 2012 et il y en aura 50 d'ici 2017. J'en ai visité de ces unités. C'est un travail formidable qui rend fier les personnels de l'éducation nationale et qui rend heureux les enfants et qui donne aux familles une confiance dans l'école de la République. Mais la scolarisation des enfants handicapés, ça doit être aussi de transférer ce qui existait dans les structures médico-sociales vers les établissements scolaires, ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Non, ce qu'on devrait appeler le milieu scolaire pour tous les enfants. Il y a eu 100 unités qui ont été transférées de ce qu'on appelle le médico-social vers l'école. De même, tous les projets d'école doivent désormais s'intéresser aux enfants à besoins éducatifs particuliers. De la même façon pour les universités. Chaque université doit avoir un schéma handicap pour permettre l'accessibilité physique, bien sûr, mais aussi pour permettre l'accompagnement, pour que ceux qui, handicapés dans le milieu ordinaire, vont aller dans l'université, puissent y être pleinement accueillis. Il y a déjà 25 schémas qui sont en place dans les universités. Il n'y en avait que deux en 2012. Et nous devons faire en sorte que toutes les universités puissent avoir ce schéma. Ces résultats qui sont significatifs, même s'ils sont insuffisants pour beaucoup de parents, mais je le sais. Ces résultats, nous les devons au courage des enfants, à la confiance des parents, au professionnalisme des enseignants, mais aussi à l'appui des 80 000 auxiliaires de vie qui se dévouent à cette cause. Leur rôle est désormais pleinement reconnu, apprécié. Il doit être valorisé. C'est pourquoi un cadre d'emploi pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap est en place depuis 2014. Ça veut dire quoi dans le jargon administratif, un cadre d'emploi ? Ça veut dire qu'il y a des exigences de qualification, qu'il y a des diplômes et qu'il y a des rémunérations qui doivent être conformes à ce qu'est cette professionnalisation. Mais regardons la vérité en face. Bon nombre de ces auxiliaires de vie ont un statut précaire aujourd'hui, fait de contrats limités dans le temps. Et c'est une double fragilité. Fragilité pour les personnels qui ne savent pas ce que leur avenir sera fait. Fragilité pour la relation entre l'enfant et l'adulte. Or, l'enfant s'attache à l'adulte qui va l'accompagner. Et l'enfant, comme la famille d'ailleurs, ne comprend pas qu'au bout de quelques mois, l'adulte ne soit plus là ou que ce soit un autre qui vienne avec l'apprentissage que cela suppose. Alors, le gouvernement engagera dès la rentrée 2016 la transformation progressive des contrats aidés d'auxiliaires de vie scolaire en contrats d'accompagnant des élèves en situation de handicap. Ce qui veut dire création de 32 000 contrats d'accompagnant supplémentaires sur les 5 prochaines années, dont plus de 6 000 dès la rentrée 2016. À terme, ce seront donc 50 000 professionnels au total, équivalent temps plein, qui seront disponibles avec une plus grande continuité d'intervention auprès des élèves et de véritables perspectives pour leur formation. Ça va changer la vie de ces personnes. Il va falloir leur donner davantage de certitude quant à leur avenir. Ça va changer la vie des enfants scolarisés, de tous les enfants scolarisés, ceux qui sont accompagnés comme ceux qui ne sont pas accompagnés. Ça va changer aussi la vie des personnels éducatifs qui auront maintenant de véritables équipes pour accompagner les enfants en situation de handicap. C'est une grande réforme, non pas pour le handicap, c'est une grande réforme pour l'école de la République. Parce que ce que nous devons faire, c'est que le plus d'enfants possible soient accueillis dans l'école et avec des personnels professionnalisés. Je veux aussi poursuivre l'évolution qui a été engagée dans les établissements et services médico-sociaux. C'est vrai que nous avons besoin de places supplémentaires. Et j'imagine que cette question est revenue dans le débat de cette conférence. Ouvrir davantage de places dans certains territoires qui sont structurellement sous-équipés et aussi pour certaines situations de handicap qui ne sont pas suffisamment traitées. Mais l'enjeu, c'est aussi la transformation de l'offre médico-sociale pour aider les personnes handicapées à vivre comme les autres, avec les autres, et de proposer des formules adaptées aux besoins de chacun. D'améliorer la qualité des réponses face à des situations de handicap complexes. Je pense aux polyhandicaps, aux troubles neurodéveloppementaux, et donc le secteur médico-social doit se redéfinir par rapport à ses objectifs. Pour soutenir cette mutation, le gouvernement mobilisera une enveloppe de 180 millions d'euros sur 5 ans et avec un abondement exceptionnel du plan d'aide à l'investissement de 60 millions d'euros parce que nous devons équiper ces structures. Nous devons également prévoir la formation des personnels correspondants. Mais nous devons aussi mettre notre intelligence en commun et de voir les expériences qui ont marché ici, dans certains départements, là, dans d'autres. Et donc, nous allons avoir un système d'information des MDPH qui nous permettra d'avoir un outil permanent de suivi et d'évaluation. Et les départements qui s'engageront dans cette démarche auront un soutien financier exceptionnel. Cette stratégie doit permettre de lier la création de places, nous en avons besoin, et de faire évoluer les modalités de prise en charge partout où elles sont attendues. Nous savons quel est notre devoir. Personne doit être sans solution. Personne doit se retrouver dans une situation où il n'y aurait rien de prévu pour son handicap. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et qu'il y a des familles qui, comme Mme Ferry l'a exprimé, attendent qu'il y ait une réponse à une situation particulière. Et parfois, ce sont les familles qui sont obligées de faire en définitive l'accueil et de supporter ce qu'elles ne peuvent pas prendre en charge. Bien sûr, toute leur affection est là, tout leur amour. Mais il y a aussi la nécessité d'intervention de professionnels. Donc nous devons faire en sorte que l'ensemble des collectivités qui sont concernées, nous puissions atteindre cet objectif. Personne sans solution. Je refuse que des personnes handicapées, que des familles se trouvent dans cette impasse pendant des mois et certaines pendant des années. À cause, et ça a été très bien dit par Ségolène Neuville, à cause de problèmes de frontières, de compétences entre les différentes structures, chacune se renvoyant la responsabilité à l'autre. Et tout le monde est concerné. L'État, à travers ses différents ministères, les départements, ce n'est pas forcément les mêmes politiques partout, les associations, les organismes sociaux. Alors, la stratégie médico-sociale devra comporter un volet spécifique pour le polyhandicap. Il s'attachera à la fois à la formation des équipes de soins et au renforcement des structures médico-sociales et au soutien des proches. Nous avons évoqué l'autisme tout à l'heure. Marisol Touraine, Ségolène Deville se sont beaucoup engagées sur cette question. Il y a eu le troisième plan autisme et ses suites. Il y a eu des progrès. Vous les avez rappelés, Madame Deville, le 21 avril dernier. Mais le désarroi des familles confrontées à cette situation demeure. Nous devons également renforcer l'égalité d'accès des enfants à des diagnostics précoces. Là aussi, plus tôt est fait le diagnostic, plus tôt est trouvée la solution et l'accompagnement. Nous devons aussi garantir les bonnes pratiques de prise en charge pour les enfants comme pour les adultes, développer des parcours diversifiés de scolarisation, accroître l'accompagnement en particulier pour les adultes. Et c'est ce qui doit nous convaincre d'adopter un quatrième plan autisme qui sera celui de l'apaisement et du rassemblement. Parce que nous devons avoir toutes les réponses et les réponses les plus adaptées et sans préjugés et sans également volonté d'imposer une solution plutôt qu'une autre. C'est autour des personnes autistes, enfants et adultes, qu'il faut travailler, en prenant en compte l'avancée des connaissances, l'évaluation des interventions. Et je fais confiance aux ministres qui en sont responsables pour y parvenir avec la Haute Autorité de Santé. Le défi, au-delà de toutes les situations différentes, c'est aussi l'insertion professionnelle des personnes handicapées. C'est la condition de leur autonomie. Travailler. Or, ces personnes payent un lourd tribut aux mutations économiques, aux exigences de performance. Alors même que, on l'a vu aussi, il y a des performances exceptionnelles qui peuvent être rendues par des êtres exceptionnels. C'est pourquoi nous sommes déterminés à accompagner les jeunes handicapés qui ont appris, sur les bancs de l'école, leur métier, dans l'université, et qui doivent être également accueillis dans l'entreprise. Le projet de loi Travail, présenté par Madame El Khomri, est également un progrès pour la situation des personnes handicapées. C'est le concept d'emploi accompagné qui existait dans de nombreux pays européens, mais pas chez nous. Et avec la loi Travail, il sera possible d'apporter simultanément à la personne handicapée et à l'employeur, en milieu de travail ordinaire, différents moments pour le parcours professionnel permettant l'accompagnement. C'est une réelle innovation. Ce dispositif sera porté par le service public de l'emploi avec l'appui de tous les établissements et services d'aide par le travail. Ce projet de loi prévoit également de regrouper des missions qui sont aujourd'hui éclatées, partagées entre Cap Emploi et les services d'aide au maintien en emploi. Plusieurs structures, elles seront regroupées. Et l'objectif est de prendre en compte aussi bien les besoins du demandeur d'emploi handicapé que de la personne déjà dans l'emploi qui peut, à cause de son handicap, être menacée de le perdre. Par ailleurs, les établissements et services d'aide par le travail bénéficieront d'un nouveau soutien à l'investissement pour moderniser leurs équipements. Enfin, toujours dans le texte de la loi Travail, il y a la création du compte personnel d'activité qui sera ouvert dès 2017 pour tout actif dès 16 ans et qui permettra d'augmenter considérablement les droits à formation des personnes les moins qualifiées. Eh bien, ce CPA, ce compte personnel d'activité qui pourra permettre d'évaluer les compétences, d'avoir davantage de formation, il bénéficiera directement aux personnes en situation de handicap. Travailler, c'est le souhait de tous, et donc des personnes handicapées. C'est également vrai pour le handicap psychique, et là aussi, la création de nouveaux groupes d'entraide mutuelle permettent à ces personnes de retrouver confiance en elles et de prendre pleinement leur place dans la société. Dans le même esprit, il y a le logement. Nous en avons parlé. Il faut lever les derniers obstacles juridiques, économiques, au développement des formes de logements accompagnés et d'habitats partagés. Là aussi, je salue le parc social qui est ici représenté, parce qu'il y a eu un effort des organismes bailleurs pour ouvrir des nouvelles places, de nouveaux logements pour les personnes en situation de handicap. Et puis, il y a des innovations, là encore. Nous avons l'objectif de créer 1500 places supplémentaires en pension de famille qui s'adressent notamment aux publics en situation d'exclusion et qui ont des troubles psychiques. Et puis, il y a le sujet de la simplification. C'est déjà compliqué pour l'ensemble des Français, l'administration, les organismes sociaux, mais même le fonctionnement des collectivités locales. Mais c'est encore plus insupportable pour les personnes en situation de handicap. C'était d'ailleurs un des thèmes de la conférence de 2014 et nous avons pris un certain nombre de mesures. Il y a la carte mobilité inclusion qui va remplacer dès 2017 la carte de priorité, d'invalidité et de stationnement, trois cartes au profit d'un document unique, sécurisé, modernisé et dont le délai de délivrance sera ramené à quelques semaines. Il faut qu'il y ait une seule carte délivrée en quelques semaines. De la même manière, le délai de renouvellement de l'AAH sera allongé de plusieurs années pour les allocataires dont le taux d'incapacité est supérieur à 80%. Ce délai pourra aller jusqu'à 5 ans. J'entendais d'ailleurs un auditeur d'une radio interrogeant le Premier ministre, posant cette question. Pourquoi il faut à chaque fois représenter les mêmes papiers pour obtenir les mêmes droits et les mêmes allocations? Même pour les certificats pour le médecin, il était demandé 3 mois de faire ce renouvellement. Première étape, on va porter ce délai à 6 mois, évitant ainsi de nouvelles consultations et évitant ainsi à la personne handicapée d'avoir à faire cette procédure supplémentaire. De la même manière, le délai de renouvellement de l'AAH sera allongé parce que je considère que c'est indispensable pour donner justement cette sécurité. Et puis, nous avons aussi la volonté de favoriser le travail. Et ça vaut pour les personnes handicapées à travers la nouvelle prime d'activité. La nouvelle prime d'activité, elle vaut pour tous. Elle permet à des salariés qui ont des revenus modestes d'avoir en plus de la rémunération de leur activité, une prime qui est versée par la CAF au nom de l'État. Le ministre du Budget est là, c'est la CAF qui délivre, c'est l'État qui paye. Et les personnes percevant l'AAH, une rente d'accident du travail ou d'invalidité, et travaillant à mi-temps, pourront donc avoir le bénéfice de la prime d'activité. Pour être très concret, une personne célibataire percevant l'AAH et travaillant à mi-temps, au SMIC, percevra une prime d'activité mensuelle de 135 euros. Et c'est donc un supplément de pouvoir d'achat qui s'ajoute à l'allocation adultes handicapés. Mesdames et messieurs, vous avez beaucoup parlé, et à juste raison, à travers vos expériences, à travers aussi votre fierté d'avoir réussi des innovations exceptionnelles. Vous avez beaucoup parlé de la société inclusive. Une société inclusive, c'est une société dans laquelle les personnes handicapées se savent non seulement soutenues, mais attendues. C'est une exigence collective qui doit être prise en compte dans toutes nos politiques publiques. La société inclusive, c'est de faire en sorte que chaque citoyen se sente responsable de tous et se sente également concerné par tous. La société inclusive, c'est celle qui fait le lien entre l'individu et le collectif, entre le sort personnel et le sort national. C'est de faire en sorte que nous soyons tous, d'une certaine façon, impliqués, concernés, mobilisés, respectés. La société inclusive, c'est aussi une obligation internationale, puisque la France à ratifier la Convention des droits des personnes handicapées au niveau des Nations Unies. Alors, puisque c'est une obligation, puisque c'est aussi une exigence pour mieux vivre ensemble, tous les acteurs doivent prendre leur part. Les acteurs publics, l'éducation nationale, les collectivités locales, les organismes de protection sociale, les bailleurs sociaux, les agences régionales de santé, les hôpitaux, les établissements, mais aussi les acteurs privés, les associations gestionnaires de structures médico-sociales, celles qui représentent les usagers, les familles, les entreprises. Tout à l'heure, j'évoquais ce que peut être l'investissement dans l'intelligence humaine et ce que représente pour une entreprise la chance, pas simplement l'obligation, la chance d'avoir des personnes handicapées en leur sein. Puisque nous devons changer le regard pour mieux nous voir tels que nous sommes. Nous devons aussi donner la parole aux personnes handicapées pour qu'elles puissent être pleinement associées aux politiques qui les concernent. La politique du handicap, c'est bien plus qu'une politique. Ce n'est pas une politique comme les autres, parmi les autres. C'est une conception de la société. Pour que chacun vive pleinement, dignement, librement sa vie, pour que tout citoyen, toute citoyenne puisse être autonome, donc responsable. Car une société inclusive, c'est une société de liberté et de responsabilité. C'est une société où la solidarité n'est pas simplement une règle, une loi, mais véritablement une participation commune. Voilà, mesdames et messieurs, le sens de la conférence sur le handicap. Merci.
Vivre FM, podcast.